nos Bibles et regardons ensemble dans Ésaïe chapitre 10. Mon texte, c'est du verset 5 au verset 27. Et je voudrais vous parler du Dieu du jugement et du salut. Il y a un seul Dieu qui sauve, mais aussi il y a un seul Dieu qui juge. Tel est le Dieu de la Bible. Il est souverain en toutes choses. Et cela, nous voyons clairement ici, dans Ésaïe chapitre 10, à partir du verset 5. Ici, c'est un message adressé à la nation de l'Assyrie, que le Seigneur a suscité pour venir contre les 10 tribus du Nord en Israël. C'était des tribus qui se sont détachées après la mort de Salomon et ont installé le siège en Samarie, et ils ont réinstauré l'adoration du veau d'or, qui était la cause de la destruction de beaucoup des enfants d'Israël dans le désert, quand Moïse est monté sur la montagne pour recevoir la loi de Dieu. Aaron avait dirigé le peuple dans cette idolâtrie, et pour cela beaucoup ont perdu leur vie. Mais voilà, après la mort de Salomon, ces 10 tribus du Nord se sont rassemblées pour établir de nouveau cette fausse adoration. Et pendant des années, ces tribus ont suivi cette fausse adoration, séparée de ce qui se passait à Jérusalem dans le temple que Dieu avait ordonné comme le seul lieu où devait adorer le peuple. Et pour cela, maintenant, Dieu suscite la nation de l'Assyrie, une mauvaise nation, une nation idolâtre, pour aller contre les 10 tribus du Nord. C'est pourquoi le verset 5 commence avec cette menace. « Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère, la verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. » Vous voyez la manière que c'est écrit là. Bien sûr, Dieu a suscité l'Assyrie pour servir d'instrument dans sa main, pour manifester sa colère contre les 10 tribus du Nord. Mais l'Assyrie elle-même devait aussi subir le jugement de Dieu pour sa méchanceté. Il dit dans le verset 6, « Je l'ai lâché contre une nation impie, je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Mais il n'en juge pas ainsi. » Donc c'est pour dire que l'Assyrie, quoique le Seigneur a suscité cette nation comme une verge de sa colère pour aller contre les nations du Nord en Israël, néanmoins, l'Assyrie elle-même n'a pas jugé que c'était Dieu qui était en train de l'utiliser de cette manière. Le peuple et le roi donnaient la gloire à leur propre puissance et à leur Dieu, petit Dieu. C'est pourquoi c'est écrit, « Mais il n'en juge pas ainsi, et ce n'est pas la pensée de son cœur. » Voilà l'arrogance donc de l'Assyrie que nous voyons ici. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule, car il dit quoi? « Mes princes ne sont-ils pas autant de rois? N'en est-il pas était de Kaino comme de Carchemish, n'en a-t-il pas été de Hamath comme d'Arpad, n'en a-t-il pas été de Samarie comme de Damas, De même que ma main a atteint les royaumes des idoles, où il y avait des images qu'à Jérusalem et à Samarie, ce que j'ai fait à Samarie et à ses idoles, ne le ferai-je pas à Jérusalem et ses images? Donc il est en train de donner des menaces pour les tribus du sud qui observaient les menaces de la Syrie et qui imaginaient que c'était seulement les tribus du nord qui devaient être touchées. Mais il dit non, je ne le ferai-je pas à Jérusalem et à ses images. Si Dieu a préservé à ce temps-ci la tribu de Juda et la ville de Jérusalem, ce n'est pas parce que cela a été mieux que leurs frères au nord. Non, c'était parce que Dieu est le juge et c'est lui qui détermine les temps et les endroits de ces jugements. Et pour le moment, Jérusalem devait être préservée, mais Dieu est en train de dire ce qui s'est passé en Samarie avec ses idoles. Ne pouvait-il pas aussi agir de la même manière à Jérusalem et à ses images? C'est écrit verset 12, « Quand le Seigneur aura accompli, notons, toute son œuvre. » C'est pourquoi le titre, c'est « Le Dieu du jugement ». Lorsque le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur le mensonge ou bien sur la montagne de Sion et à Jérusalem, c'est là qu'il a dit, « Je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux. » Voilà comment Dieu agit. Il utilise une nation pour punir une autre et puis ensuite il retourne et il punit la nation qu'il a utilisée comme instrument de sa colère contre une autre nation. Nous voyons aujourd'hui les guerres et les nations qui se soulèvent l'une contre l'autre. Il faut savoir que c'est Dieu qui agit. Et c'est sa main qui détermine la suite de toutes choses. Mais comment est-ce que Dieu juge ces nations? C'est à cause de l'orgueil. Notons dans le verset 12 encore, et pour l'arrogance de ses regards hautains, car il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi. Combien les gens raisonnent comme ça aujourd'hui, imaginant que c'est par leur détermination, leur soi-disant libre arbitre, qui n'est pas un libre arbitre. L'homme est pécheur, donc il agit toujours selon sa nature. Mais ça se manifeste en se donnant la gloire pour tout ce qu'il fait. Comme ici, les Assyriens raisonnaient. Il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse, car je suis intelligent. J'ai reculé les limites des peuples et pillé leurs trésors, et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. Et c'est vrai, à cette époque, la nation d'Assyrie régnait sur le monde. C'est le Seigneur qui les a suscités pour accomplir sa volonté. Mais le roi de l'Assyrie et le peuple ne reconnaissaient pas la main du Dieu souverain en cela. Ils avaient leur propre Dieu, petit dé. Et néanmoins, Dieu agissait, même s'il ne reconnaissait pas sa main en ce qui s'est passé. Et c'est ce que l'homme ferait, toujours. L'homme fera, il se donnera la gloire chaque fois, au lieu de reconnaître la main de Dieu en toutes choses. Verset 14 continue, et c'est ainsi que nous voyons l'arrogance de la Syrie. J'ai mis la main sur les richesses des peuples comme sur un nid, et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. C'est pour dire que personne ne pouvait opposer à la puissance de la série que Dieu leur avait donnée à cette époque. Cette nation de la Syrie aujourd'hui représente la nation que nous connaissons comme l'Iran. Et il faut savoir que en Iran aujourd'hui, ceux qui sont au Seigneur, un reste que le Seigneur a préservé, ils sont persécutés. Ils ne sont pas libres de pouvoir adorer le Dieu de la Bible aujourd'hui. S'ils se réunissent, ils doivent se réunir en secret. C'est un peuple qui continue à être persécuté jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une nation musulmane, mais le Dieu des musulmans n'est pas le Dieu de la Bible. Les musulmans croient à la souveraineté de Dieu. C'est pourquoi, quand ils disent « Inch'Allah », c'est-à-dire « si Dieu le veut », ils sont en train de reconnaître en quelque sorte que ce qui se passe, c'est Dieu qui doit l'ordonner, mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ils ne croient pas surtout au Dieu trinitaire de la Bible, où il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui agissent comme un seul Dieu. Pour eux, dire que le Seigneur Jésus est Dieu dans la chair, c'est une offense. Pour eux, c'est du blasphème. Pourtant, c'est ce que Dieu est. Donc, rien n'a changé depuis cette époque. Ici, nous sommes des centaines d'années avant l'arrivée du Christ et on continue aujourd'hui, à l'an 2022. Rien n'a changé. Dieu a préservé la nation. Mais ce n'est plus la puissance que c'était lorsque Ésaïe annonçait ses prophéties. Alors, nous voyons ici comment Dieu évalue l'arrogance de la Syrie, exactement comment Dieu évalue l'arrogance de n'importe quel pécheur. Et c'est avec dédain. C'est écrit, verset 15, la hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert, ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie, comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. Vous voyez le raisonnement là que Dieu donne. Quelle hache qui va se glorifier d'avoir accompli quoi que ce soit dans les mains de celui qui s'en sert. Non, la puissance vient de la main de celui qui s'en sert, de cette hache. Mais la hache ne peut pas se donner la gloire, ni la scie, ni la verge. Mais c'est ce que l'homme fait aujourd'hui, il se donne la gloire, imaginant que ce qu'il fait est selon son pouvoir. Même jusqu'à aujourd'hui, dans le monde du soi-disant christianisme, où les gens prétendent que c'est par leur propre volonté qu'ils sont venus à Christ et qu'ils se sont convertis. Et la même question peut être posée à ceux qui disent ça de nos jours, que la hache ne peut pas se glorifier, la scie ne peut pas être arrogante, ni la verge faire mouvoir celui qui la lève. Non, nous existons et nous avons notre vie et notre promouvoir en Dieu. Personne ne peut venir à Christ si ce n'est Dieu qui l'attire et Dieu qui l'ordonne. Et c'est pour cela que Christ est venu donner sa vie. Ça ne dépend pas de l'homme. Le salut en rien ne dépend de l'homme. Alors, c'est ça l'évaluation que Dieu donne de l'arrogance, non seulement de la Syrie, mais je dois dire de tout pécheur qui se dit fier de ce qu'il est, ce qu'il est devenu. Verset 16 nous dit, c'est pourquoi le Seigneur, notons, le Seigneur des armées enverra le dépérissement parmi ses robustes guerriers, et sous sa magnificence éclatera un embrasement, comme l'embrasement d'un feu. La lumière d'Israël deviendra un feu. Mais qui est la lumière d'Israël? On peut dire, ouais, ça c'est Dieu qui est la lumière, mais même si Christ n'était pas encore venu dans le monde, Christ existait déjà là comme la gloire et la lumière de son Père. Et donc, tout ce que Dieu était en train de faire était à travers la personne de son Fils, le Saint Jésus-Christ, même ici. Et c'est pour sa gloire, alors que Dieu agissait de la manière qu'il agissait. Il est devenu un feu, et notons son sein, une flamme. Qui est le sein de Dieu? Ça, c'est Christ, qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour, qui consumera corps et l'âme, la magnificence de sa forêt et de ses campagnes. Il en sera comme d'un malade qui tombe en défaillance. Le reste des arbres de sa forêt pourra être compté, et un enfant en écrirait le nombre. Même un enfant. Cela veut dire que quand Dieu a fini de brûler la nation de la Syrie, et la Syrie est tombée, effectivement, lorsque Dieu a suscité des années plus tard, 150 ans plus tard, la nation de Babylone, Nebuchadnezzar, c'est lui qui est allé contre la nation de la Syrie et l'avait complètement détruit. C'est ainsi que ce que nous sommes en train de lire ici s'est réalisé pour le moment, lorsqu'Isaïe écrivait la nation de la Syrie était au pouvoir et manifestait sa puissance. Mais Dieu a dit que de la même manière qu'il a utilisé cette nation de la Syrie pour aller contre Israël, il devait susciter une autre nation qui allait complètement ravager la forêt, les campagnes. Celui qui était bien fort au début est devenu comme un malade et tombé en défaillance. Voilà le langage que Dieu utilise pour démontrer que ce n'est pas l'homme qui détermine sa fin, mais c'est Dieu. Alors, lorsque nous arrivons ici dans les versets 20 à 27, parce que je disais que c'est un message d'un Dieu qui condamne, et nous voyons cela dans ces versets, mais il est aussi un Dieu qui sauve. Et c'est Dieu qui détermine qu'il sauve, qu'il condamne. Ici, nous voyons dans le verset 20 que Dieu avait ordonné le salut pour un reste, et cela à cause du Christ. C'est écrit, en ce jour-là, le reste d'Israël, et notons, les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Et notons la deuxième fois que c'est mentionné, verset 20, le reste, il y a un reste. Cela représente les élus de Dieu, que Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, a préservé. Aussi, verset 21, le reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. Donc, il s'agit ici d'un acte spirituel que Dieu allait faire en préservant un peuple et en ramenant ce peuple à lui. C'est écrit verset 22, « Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer. » Notons encore la troisième fois, « Un reste seulement reviendra, la destruction est résolue, il en fera déborder la justice. » C'est ainsi que nous voyons. D'un côté, il y a le Dieu qui condamne, mais de l'autre côté, il y a le Dieu qui sauve qui il veut. Et cette destruction de ceux qu'il a déterminés à la destruction, notons, est résolue. C'est le Seigneur, l'Éternel des armées, qui l'accomplira dans tout le pays. Il y en a qui prétendent que non, Dieu est amour, il ne pouvait jamais condamner qui que ce soit. Ceux-là ne connaissent pas le Dieu de la Bible. Et lorsque Dieu condamne, même à l'enfer, il ne faut pas penser que non, Dieu a tout fait, mais finalement il est obligé à condamner les pécheurs parce qu'il ne se répand pas. Ici, c'est écrit que cette destruction est résolue et déterminée par qui? Le Seigneur, l'Éternel des armées, qui accomplit tout cela dans tout le pays. Donc, s'il n'y avait pas cette miséricorde de Dieu qui préserverait un reste, c'est-à-dire les élus de Dieu en Christ, alors tous seraient détruits. Verset 24. Cependant, j'aime ces petits mots-là qui sont pleins de sens. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées, ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Quand il dit mon peuple, il est en train de parler de ceux-là qu'il a déterminés, préservés par sa grâce à cause du Christ. Il leur dit de ne pas craindre l'Assyrien. Il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi comme faisaient les Égyptiens, mais encore en peu de temps, et le châtiment cessera. Puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb, et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore comme en Égypte. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Nous allons arrêter là, dans la lecture de ce passage si important. Et voilà ce qui est décrit comme prophétie au temps d'Isaïe, et effectivement tout cela s'est passé exactement. Vous voyez, Dieu est souverain, mais il est aussi le Dieu de l'histoire. Nous ne savons même pas comment il agira, même une seconde maintenant, nous ne pouvons pas savoir, mais en regardant dans le passé, dans l'histoire, depuis la chute d'Adam, nous pouvons dire que tout cela s'est déroulé exactement comme Dieu l'a ordonné. Même la chute d'Adam n'a pas pris Dieu en surprise pour dire, ah, mais il voulait que les choses soient autrement. Non. Tout cela s'est passé exactement comme Dieu l'avait annoncé. Et c'est pour nous montrer que les hommes ne sont pas à eux-mêmes, mais c'est Dieu qui sert de tous ces êtres. C'est lui le créateur, c'est lui le juge. Donc, il se sert de toutes ces créatures comme instruments, je dirais involontaires, dans la main de l'Éternel. Ils sont là pour servir la cause de Dieu et ce que Dieu a ordonné. Quand il dit, revenant dans mon texte, dans Ésaïe chapitre 10 et le verset 5, bien sûr, il a suscité l'Assyrie, mais il commence avec malheur à l'Assyrien. Donc ici, la parole n'est pas simplement adressée contre le roi de l'Assyrie, mais contre tous ceux qui se nomment Assyriens, qui sont nés de cette postérité. Et il leur dit, il les appelle la verge de sa colère, dans la partie précédente que nous avons déjà vue dans Ésaïe 7 et le verset 1, ça retourne en arrière plusieurs chapitres, jusqu'à ce que nous avons vu la dernière fois, chapitre 10 et le verset 4. Le Seigneur s'est révélé comme celui qui devait utiliser la Syrie comme l'instrument de jugement, non seulement contre Israël et Juda, mais contre aussi une autre nation qui existe encore aujourd'hui, la Syrie. C'est majuscule S-Y-R-I-E. Ça, c'est une autre nation au nord-ouest au nord-est d'Israël aujourd'hui, qui est différent que la Syrie, que nous voyons avec A-S-S-Y-R-I-E. Néanmoins, c'était tous des instruments entre les mains de Dieu d'accomplir sa volonté. Et nous avons vu cela, comment Dieu devait se servir de la Syrie dans ces chapitres contre ces trois nations qui se sont liguées pour essayer de confronter la nation de la Syrie, mais en vain. Donc c'est ici, nous voyons une tenue, un changement, où bien sûr Dieu devait se servir de la nation de la Syrie, mais maintenant malheur à l'Assyrien qui était verge de sa colère. Donc les Assyriens ne méritaient pas mieux que ceux qu'ils ont attaqués. Et effectivement, Dieu leur dit malheur à vous. Alors, nous voyons un changement similaire dans l'objet de son jugement divin qui s'est produit dans le cas des Babyloniens plus tard. Parce que d'abord, il y avait les Assyriens, maintenant Babylone s'est suscité des années plus tard. Et Dieu a levé les armées babyloniennes. Là, nous sommes en train de voir dans l'histoire, dans les années 605 et 686 avant l'arrivée du Christ. Et Dieu a suscité cette nation babylonienne pour aller contre les tribus de Juda qui sont restées. Et le prophète Habacuc, quand vous lisez le prophète Habacuc, c'était à cette époque qu'il a été suscité pour prononcer le jugement contre Babylone. Alors en tout cela, nous voyons que Dieu est un Dieu de jugement. Dans le psaume 76, si vous regardez là avec moi, nous voyons que c'est écrit « Même la colère de l'homme louera le Seigneur ». Psaume 76 et le verset 11. « L'homme te célèbre, notons, même dans sa fureur, quand tu te revêts de tout ton courroux. » Alors Dieu utilise la méchanceté et le caractère charnel de l'homme sans toutefois lui-même être jugé pour avoir commis un péché. On ne peut pas attribuer à Dieu le péché de la manière qu'il agit. Je dis souvent, il est comme l'auteur d'un roman. Et il écrit le roman. Il fait passer dans son roman les caractères qu'il veut. Et dans tout roman, il y a des méchants et puis il y a des gens de bien. Mais c'est l'auteur qui détermine le caractère. C'est de cette manière que Dieu est l'auteur de tout ce qui se passe dans l'histoire. C'est son histoire. Et donc à lui de déterminer qui il va juger et qui il va préserver. Tout cela, Dieu est totalement justifié. Et puisque dans le verset 11, l'homme te célèbre même dans sa fureur. Imaginons ce que les gens ont fait de Christ, son fils, lorsqu'il est venu dans le monde. Et c'est dans leur fureur qu'ils ont crucifié le Seigneur Jésus. Mais en tout cela, comme Pierre le dit dans son message le jour de Pentecôte, dans Actes chapitre 2, et le verset 23, nous lisons là que ce que les hommes ont fait de Christ, c'est Dieu qui a livré son Fils selon son dessein arrêté. Voilà ça dans Actes 2 et le verset 23. Cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Il n'y a rien qui s'est passé contre Christ, même dans la fureur des gens contre lui, qui n'était pas exactement selon ce que Dieu avait prédéterminé. Nous voyons ça surtout aussi dans Actes chapitre 4. C'est écrit dans le verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Notons bien, verset 28, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Donc Dieu est juste en condamnant les pécheurs, même pour leur méchanceté. C'est lui qui fait en sorte à ce que même la fureur des hommes le célèbre. Cela veut dire accomplir sa gloire. Ce modèle est répété maintes et maintes fois dans les Écritures. Prenons l'exemple des frères de Joseph qui ont péché contre Joseph. Mais à la fin, Joseph lui-même a dit que quoi qu'ils ont voulu lui faire le mal, c'est Dieu qui a tourné ce mal en bien. Dieu l'a utilisé pour son dessein. Et même s'il a discipliné les frères de Joseph, ayant commis leur péché contre lui, quand même, il a suscité Joseph à travers leur trahison. Voilà une belle image du Seigneur Jésus-Christ. Les gens ont voulu lui faire du mal, et ils ont fait tout ce que Dieu a ordonné. Pourtant, Christ a eu le dessus, et à travers sa mort à la croix, on ne peut pas imaginez une peine pire que ça. Néanmoins, c'est ainsi que Dieu a ordonné à ce que son peuple soit sauvé. Même chose avec Saül, qui a péché contre David. Mais David a utilisé cette situation, ou Dieu a utilisé cette situation pour son dessein. En fin de compte, bien sûr, il a jugé Saül pour sa désobéissance. Pourtant, tout cela s'est passé exactement comme Dieu l'avait ordonné. L'exemple de Judas Iscariote, voilà encore un exemple, qui a péché contre le Seigneur Jésus, mais Dieu l'a utilisé pour son dessein. En fin de compte, il a jugé Judas, mais Judas n'a pas pu faire ce qu'il a fait si ce n'était ce que Dieu l'avait ordonné. Alors voilà le Dieu qui juge les pécheurs, qui est souverain sur les pécheurs et qui accomplit sa volonté à travers les pécheurs, et rien ne peut l'empêcher lorsqu'il en retour juge ceux qu'il a utilisés dans sa souveraineté contre d'autres. Mais le point avec lequel je voudrais terminer, en revenant dans notre texte ici, dans Ésaïe chapitre 10, dans les versets 20 à 27, c'est pour nous montrer que à travers tout cela, Dieu a son peuple. Et voilà ce qui doit nous encourager, nous qui sommes prédicateurs. Bien sûr, je dirais que l'évangile que nous avons à prêcher est un évangile comme une épée à double tranchant. Lorsque nous prêchons, Nous devons prêcher ce Dieu souverain qui juge et qui condamne les pécheurs, mais en même temps, nous annonçons aussi clairement que Dieu est un Dieu de miséricorde et de grâce et d'amour. Mais son amour n'est pas pour tous les êtres du monde. Ici, son amour n'était pas envers cette nation de la Syrie, mais il a son peuple. Et voilà le point que je voudrais souligner tout à l'heure dans les versets 20 à 22. Trois fois, c'est mentionné son peuple et un reste. Et par la grâce de Dieu, c'est ainsi. Il a un reste qu'il a préservé selon l'élection de sa grâce. Et ceux-là doivent hériter le salut par la grâce de Dieu et ne peuvent pas être condamnés avec le reste du monde. C'est de ça que Paul a écrit dans son épître aux Éphésiens. Vous savez que les Éphésiens étaient des païens, n'étaient pas des juifs, et donc ne faisaient pas partie, si vous voulez, de l'histoire dans l'Ancien Testament du peuple juif. Mais lorsque Christ est venu et il a été crucifié sur la croix, ce n'était pas seulement pour un reste parmi les Juifs qu'il a été crucifié, mais un reste aussi parmi les nations. C'est pourquoi il est appelé le sauveur du monde. Ce n'est pas qu'il est venu tenter de sauver tous les êtres du monde, mais le reste, un peuple parmi le monde qu'il est venu sauver. Et cela, selon son élection éternelle, c'est une élection de la grâce, et par sa rédemption que Christ a accomplie à la croix, encore, ça c'est la grâce de Dieu, en mettant Christ à la croix, à la place de ce peuple, et aussi en appelant chacun qu'il a élu et pour qui Christ est mort par son esprit. Il y en a qui raisonnent, mais si Dieu a déjà élu et Christ est déjà mort pour ceux qui doivent être sauvés, pourquoi prêcher l'évangile? C'est parce que c'est le moyen que Dieu a ordonné à ce que ceux-là soient attirés maintenant à Christ, qu'ils apprennent de Christ, exactement comme Ésaïe. Si les choses étaient déjà prédéterminées, certains disent, mais pourquoi la prophétiser alors? C'est pour que à la fin, ceux qui sont condamnés sachent que c'est selon la condamnation qu'ils ont méritée, mais aussi afin que ceux qui sont sauvés aussi sachent que leur salut ne dépend pas d'eux, mais c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi dans Éphésiens 1, voilà les bénédictions spirituelles pour ce reste. C'est écrit dans le verset 3, Éphésiens 1, 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tout ce qui se déroule sur la terre a déjà été déterminé dans les lieux célestes, mais en Christ. Pourquoi il y a le salut? C'est parce que même avant la création de ce monde, le Seigneur Jésus était là comme le Fils de Dieu éternel, à qui le Père lui a donné un peuple qui devait maintenant venir sauver. Et notons, toujours c'est à cause de Christ. Pourquoi Dieu a préservé un reste en Israël? C'est parce qu'il avait déjà promis à David de faire venir de la postérité de David le Seigneur Jésus-Christ, et ça devait être de la tribu de Judas. Et donc les Assyriens sont venus prendre les 10 tribus du Nord en captivité, où jusqu'à aujourd'hui ces tribus ont disparu, mais la tribu de Judas est restée. Dieu a fait venir, revenir en Israël après la captivité en Babylone, un reste, et a établi ce peuple encore dans le pays, pour que lorsque le Seigneur Jésus-Christ devait venir des centaines d'années plus tard, que c'est pour lui que cette nation était préservée à cause de Christ. C'est ça, nous lisons dans Éphésiens 1 toujours. En lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu a quoi? Élu avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant quoi? Prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de qui? Sa volonté. Ce n'est pas selon notre volonté, mais sa volonté. À la louange, la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, notons, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Quel Dieu! Bien sûr, un Dieu qui condamne, et il est juste en condamnant les pécheurs, mais un Dieu qui sauve. Mais lorsqu'il sauve, il sauve justement aussi. S'il sauve, c'est parce que Christ a payé la dette. Christ a satisfait la loi et la justice de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu peut sauver. Alors nous allons nous arrêter là pour cette fois-ci et revenir sur ce passage la prochaine fois dans Isaïe 10 et le verset 28 à 34. Alors que son nom soit béni. Amen.